Si vous souhaitez tout savoir sur votre année de naissance, retrouvez-nous pour quelques émissions sur les années anniversaires commentées par Jean Saraméa, historien géographe retraité. Joyeux anniversaire à tous ceux qui ont 20, 30, 40, 50, 60 ans et plus en cette année 2022.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver Jean Saraméa pour nos années anniversaires. Bonjour Jean.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va souhaiter un bon anniversaire à celles et ceux qui, en 2022, ont 60 ans. Alors, que s'est-il passé d'important, tout au moins qui reste au niveau historique, en 1962? Alors, au niveau international, c'est quelque chose d'extrêmement grave, puisque les historiens qui ont accès aux archives américaines, et même russes un petit peu, se sont aperçus qu'on était, au mois d'octobre 62, à moins de 24 heures de la guerre nucléaire, à cause de l'affaire de Cuba. Khrouchtchev, qui est le chef, entre guillemets, de l'Union soviétique, a jugé que Kennedy, président des États-Unis, était bien jeune et ne saurait peut-être pas réagir à un pari stratégique ou à une crise. Et à la demande de Fidel Castro, qui avait été, pas envahi, mais enfin qui avait été agressé par une armée en partie américaine, nord-américaine, Khrouchtchev envoie des missiles nucléaires et les installe sur le sol cubain. Pour les États-Unis, il n'y a jamais eu une menace aussi proche et aussi grave, et donc Kennedy monte au créneau et parle à la télévision et fait savoir au monde entier que si l'Union soviétique ne retire pas ses missiles, ce sera la guerre. Et on sait maintenant que Kennedy a failli être débordé par les militaires américains qui trouvaient que Kennedy négociait trop et qu'il fallait à la fois détruire Cuba et détruire les navires soviétiques qui s'en approchaient. Ça aurait été réellement le début de la Troisième Guerre mondiale. Alors, il y a eu, in extremis, c'était dans la nuit du dimanche au lundi, il y a eu recul de l'Union soviétique. Khrouchtchev a compris que les États-Unis ne bluffaient pas, et il a donné l'ordre de retirer les missiles. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Khrouchtchev a dit à Kennedy, « Mais oui, bien sûr, je vous menace depuis Cuba, mais vous, vous avez des missiles nucléaires américains en Turquie, et la Turquie a des frontières avec l'Union soviétique, donc vous me menaciez avant, hein, bien autant. Il est entendu que vous allez retirer les missiles nucléaires de Turquie. » Ce qui n'a pas été très répandu comme information, si bien que pour le monde entier, Kennedy l'avait emporté, alors que c'était beaucoup plus équilibré. On revenait à, non pas la détente, mais enfin une guerre froide un petit peu apaisée, mais deux ans plus tard, ça coûte son poste à Khrouchtchev, hein, qui est démissionné, et c'est aussi une des causes de la rupture avec la Chine, parce que on sait maintenant que Mao avait vitupéré contre Khrouchtchev en lui disant « Mais vous aviez l'occasion de détruire les États-Unis, pourquoi vous l'avez pas fait ?» Khrouchtchev avait répondu à Mao que « Bon, c'était bien gentil, mais enfin, il n'y aurait plus eu d'Union soviétique non plus. » Mao a fait savoir qu'il restait la Chine. Oui, mais bon, ça ne rassurait pas spécialement Khrouchtchev. Et il y a eu une montée en puissance d'une rivalité, sinon d'une tension militaire de plus en plus grave entre, disons, Moscou et Pékin. Donc c'est quelque chose d'important au niveau international. Toujours au niveau mondial, 1962, ce sont des indépendances. Indépendance dans l'ancien empire belge, c'est le Rwanda, dans l'ancien empire britannique, c'est le Tanganyika, c'est l'Ouganda, c'est la Jamaïque, et l'indépendance de l'Algérie, qui se fait de façon dramatique pour tout le monde, puisque au niveau de cette guerre, c'est une sorte de triple guerre civile entre musulmans, entre militaires d'origine plus ou moins totalement métropolitaine et pied-noir, et donc entre Européens et bien sûr entre indépendantistes et colonisateurs entre guillemets. Bon. Ce qui fait que 60 ans après, les commémorations sont toujours délicates parce que ça reste passionnel étant donné le drame qui s'est déroulé à la fois en Algérie et même en métropole. D'où, au niveau de la France, c'est la présidence du général de Gaulle, c'est le gouvernement Michel Debré, mais comme Michel Debré avait été très sincèrement Algérie française, ben, il quitte la présidence du gouvernement et il est remplacé par Georges Pompidou qui va faire la plus longue fonction de chef du gouvernement de 62 à 68. Il y a des attentats, plus célèbre est le petit Clamart au mois d'août, ce qui permet au général de Gaulle de ressortir un projet qui n'est pas nouveau, gardé en réserve, celui de l'élection au suffrage universel du président de la République. Parce que dans la Constitution de 1958, le président de la République était élu par 80 000 grands électeurs. Mais ces grands électeurs provenaient pour l'essentiel de l'Empire, de l'Union française, comme on disait à l'époque. Donc, il n'y a plus d'Empire. Donc, les 80 000 grands électeurs n'ont pas lieu d'être. Et donc, il y a cette proposition, le référendum est approuvé, même si la quasi-totalité des partis politiques sont vent debout, parce que, au niveau historique, élire le président au suffrage universel, ça ne s'est fait qu'une seule fois, et c'était Louis-Napoléon Bonaparte qui a renversé la République quelque temps après. Alors, même si c'est très ancien, ça a laissé un souvenir historique plus mitigé. C'était aussi, au niveau institutionnel, la seule dissolution par le président de la République de l'Assemblée nationale, avec de nouvelles élections. La suivante, ce sera 1997, beaucoup plus tard et pour des raisons tout à fait différentes. Autrement, en France, eh bien, c'est le lancement du paquebot France, c'est la fin du premier bac, parce qu'il y avait le bac à la fin de la première, puis à la fin de la terminale. Alors, c'est regroupé à la fin de la terminale ensuite. Ce sont les accords entre la France et le Royaume-Uni pour la construction de l'avion Concorde, qui sera réellement mis en œuvre. C'est le percement achevé, mais pas encore la mise en service, du tunnel du Mont-Blanc, entre la Haute-Savoie et le Val d'Ost italien. Revenons un petit peu au niveau international, c'est la création d'Amnesty International, qui, depuis le nord-ouest des États-Unis et l'ouest du Canada, va avoir ensuite une influence planétaire pour essayer de limiter le nombre de prisonniers politiques et de lutter contre la peine de mort, pas seulement politique. Autrement, c'est l'ouverture de Vatican II. On l'a bien oublié, mais le Vatican II qui va durer plusieurs années, c'est une profonde réflexion à l'intérieur de la religion catholique, et peut-être que la décision majeure, c'est celle d'accepter toutes les religions et toutes les spiritualités de la planète. C'est très nouveau au niveau d'une religion monothéiste d'influence planétaire. Au niveau culturel, eh bien, ce sont les débuts d'Yves Saint-Laurent, si on peut mettre ça dans la culture. Au niveau international, c'est le premier astronaute américain, John Glenn. Les États-Unis envoient pour la première fois une sonde vers Vénus, et les Soviétiques font de même vers Mars. Au niveau sportif, c'est Jacques Anquetil qui gagne le Tour de France, il le gagnera plusieurs fois, et c'est Michel Jassy qui est champion du monde à la course. Au niveau des films emblématiques, eh bien, il y en a pas mal. Laurence d'Arabie, qu'on revoit de temps en temps. C'est également Jules et Jim de Truffaut, typique de ce qu'on appelle la Nouvelle Vague. C'est dans le cinéma italien, Mamma Roma. C'est Vie privée de Louis Malle. C'est La Fayette Lafayette. Je me souviens l'avoir vu là, ce grand écran. C'était un effet spectaculaire. Et puis c'est le jour le plus long. Et la première mouture très sympathique en noir et blanc de la Guerre des Boutons, qui repasse de temps en temps, même s'il y a eu deux autres moutures de ce thème avec des époques différentes. Au niveau littérature, Ionesco écrit la pièce « Le roi se meurt » et Solzhenitsyn fait paraître, et c'est traduit en français, « Une journée d'Ivan Denisovitch ». C'est important parce que ça décrit, quasiment pour la première fois pour un grand public, ça décrit le goulag. Et c'est bien avant les autres futurs écrits de Solzhenitsyn qui seront pendant les années 70. John Steinbeck, prix Nobel de littérature. En musique, ce sont les débuts de Sheila, de Claude Nougaro, et c'est le premier disque des Beatles, 1962. Alors, qui nous quitte cette année-là? Eh bien, Marilyn Monroe, à 36 ans. Le professeur Picard, que l'on a bien oublié, mais qui était un ingénieur suisse, qui a exploré les fonds sous-marins et la stratosphère, c'était plusieurs grandes premières. Le peintre Yves Klein, avec son célèbre bleu qui a été gravé dans le marbre, si on peut dire. L'écrivain américain William Faulkner, l'ancien président de la 4e République René Coty, les écrivains Roger Nimier, Pierre Benoît, le philosophe français Gaston Bachelard, le poète français Alain Borne et le grand médecin français Henri Mondor. Parmi les naissances de personnes qui vont faire parler d'elles plus tard, bien sûr, Tom Cruise, Muriel Dac, Judy Foster, Sabine Paturel, Marc Lavoine, Marie Trintignant, Charlie Mottet et Damon Hill. Alors, il y a évidemment beaucoup de chansons cette année-là. Le premier prix de l'Eurovision est gagné par la France. C'est Isabelle Aubray qui chante Un premier amour. Autrement, je pense à Mauric, la Java des gens qui s'aiment, ou C'est joli la mer. Mais on va écouter, parce que c'est emblématique, Barbara dit « Quand reviendras-tu ?» Grand moment de la chanson en 1962. Je rappelle que, en tant que historien et géographe, pour les années anniversaires, les choix sont évidemment subjectifs. Il pourrait y avoir, et vous trouverez sans doute sur Internet, beaucoup d'autres événements, beaucoup d'autres phénomènes. Mais bon, il ne faut pas non plus ennuyer trop longtemps les auditeurs et auditrices. Et je pense, en relisant cette année 1962 comme les autres, qu'est-ce qui va avoir une influence à moyen ou à long terme? Merci à tous et à toutes.
Merci Jean.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire, et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne, ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. « dis, quand reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous de mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai ma route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Dis, mais quand reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape, ne se rattrape, ne se rattrape plus.